Ce temps que nous venons de passer, je proclame vraiment que tu es un grand roi. Et c'est sous l'égide de ce roi ce matin que je voudrais, ce roi des rois, ce seigneur des seigneurs, que je voudrais apporter ta parole, Seigneur. Aide-moi à le faire. Aide-nous aussi à comprendre ce que tu veux nous dire à travers ces paroles. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Et nous avons besoin de toi. Amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer cette série sur l'espérance. On a 4 séries, donc ça c'est la 3e pour vous. Et Michael moi je fais la 4e et Michael fait la 3e à Brignoux. Et nous allons donc continuer cette série sur l'espérance. Et plus précisément, l'espérance de l'accès et de la participation à la gloire de Dieu. Et j'en discutais tout à l'heure avec Rebecca, qui a eu aussi, parce qu'elle devait préparer la louange dans ce sens, elle dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Et je lui ai dit, c'est exactement ce que je me suis dit il y a 15 jours, 3 semaines, quand j'ai pris ce sujet en main. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Et puis finalement, là, je viens de me rendre compte que n'avons-nous pas participé à la gloire de Dieu par ce temps de louange? Je me pose la question, enfin j'en suis même sûr que oui, nous venons de participer à la gloire de Dieu par ce temps de louange. Nous venons de célébrer notre Dieu, nous l'avons chanté, nous avons chanté ses louanges, nous avons eu de la peine à chanter ses louanges parce que nous ne pouvons le faire qu'avec nos mots. Hein. Et ces mots, ils sont limités. Mais nous avons déjà participé à la gloire de Dieu. Alors est-ce que ça marche? Ça marche. Alors, il y a 2 semaines, je vous avais parlé de l'espérance. Alors moi, je me suis focalisé sur ce qu'on appelle en théologie l'espérance chrétienne, c'est-à-dire ce qui se passe à la fin des temps et aussi après la mort. Je veux juste le rappeler, c'est un peu comme un cube à 6 faces. D'abord, 4 faces assez générales que je vais rappeler ici. Donc, l'espérance chrétienne attend la délivrance de l'humanité et de l'univers du mal et de la mort. C'est ce qu'on a lu un peu tout à l'heure avec les textes d'Apocalypse. Un signe emblématique, c'est que dans l'éternité, il n'y aura pas de fabrique de mouchoirs. Alors j'espère que vous avez compris, quelqu'un a dit, pourquoi je dis ça. Hein, parce que Rebecca a dit tout à l'heure, il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, il n'y aura donc plus de mouchoirs aussi. L'espérance chrétienne est une assurance certaine, fondée sur les promesses et la toute-puissance du Dieu trinitaire. J'ai pris une parole d'un psaume, « Mon espérance est en toi, ô Dieu », et j'avais développé ça il y a 15 jours. Pourquoi, contrairement à Michel Polnareff, qui a dit « On ira tous au paradis », pourquoi on peut faire confiance en Dieu, alors que Michel Polnareff, ses paroles n'engagent plutôt que lui. Il ne nous a pas démontré qu'il avait l'autorité pour nous dire ce qui se passera, pour nous faire entrer au paradis. L'espérance chrétienne, c'est aussi choisir de compter sur une personne, Jésus, et bien sûr son enseignement qui va avec, et non sur nos circonstances. Et l'espérance chrétienne se concentre sur la vie éternelle et le retour du Christ qui jugera les vivants et les morts. Donc ça, c'est les généralités. 4 faces du cube, les 2 autres faces du cube, alors là, je ne les ai pas développées il y a 15 jours parce qu'il faudrait vraiment y passer beaucoup de temps, mais qu'est-ce qui se passe après la mort ? Et on n'en parle quasiment jamais. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe après la mort. Donc là, je répète que j'ai résumé un enseignement de Sylvain Romerowski. Mais après la mort, les croyants, conscients et reposés de leur souffrance, entrent dans la présence du Christ, dans un état dit intermédiaire. Donc c'est les théologiens qui n'ont pas pu le décrire. Alors ils ont dit, c'est un état intermédiaire. Un état d'intermédiaire, d'attente et de purification, et participe au règne de Christ. Et les références, j'ai mis toutes les références, donc dans Philippiens 1, 20, 24, Apocalypse, beaucoup de textes d'Apocalypse. Et si vous lisez l'Apocalypse, vous voyez déjà les gens qui sont morts, qui sont là, qui disent « Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu permettre que le mal continue à se développer d'une certaine façon ?» Et surtout la persécution. Mais cet état est temporaire en attendant la deuxième venue du Christ accompagnée de la résurrection finale et l'établissement du royaume de Dieu avec de nouveaux cieux, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur la nouvelle Jérusalem parce que c'est une image, on ne sait pas ce qu'il y a exactement derrière. Les corps sont ressuscités et ils seront incorruptibles et glorieux. Bon, 2 phases. Dans notre espérance, qu'est-ce qui se passe directement après la mort? On se rend compte que ce n'est pas vraiment fini, ça continue sous une forme différente. Et puis, à un moment donné, le royaume de Dieu va être pleinement manifesté. Pour aujourd'hui, on a chanté que Dieu règne, mais on sait que le mal est encore là. Mais à ce moment-là, il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que le royaume de Dieu sera pleinement manifesté. Voilà, ce rappel étant fait, pour aujourd'hui, je vous propose comme idée centrale, qui n'est pas vraiment une idée centrale, mais plutôt un slogan, que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, comme pour l'autre fois avec le chant de Paul Naref, incroyable mais vrai, qui était une émission assez de Pierre Bellemare sur Europe 1, je crois, si c'était ça. Mais ça date. Hein. Incroyable mais vrai. C'est un slogan plus qu'une idée centrale. Et on va voir ça en trois points. D'abord, vous savez, je suis allé progressivement, comme le sujet était quand même compliqué, j'ai dit, premièrement, on va faire la chose la plus facile, c'est essayer de définir la gloire de Dieu. C'était pas si facile que ça. Puis on va voir l'espérance de l'accès à la gloire de Dieu, et enfin l'espérance de la participation à la gloire de Dieu. Et on a déjà, comme je l'ai dit en introduction, on l'a déjà finalement participé d'une certaine façon à travers les temps de louange que nous avons eus. Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu ? J'ai choisi des images qui sont susceptibles de représenter la gloire de Dieu, mais vous verrez, c'est pas si explicite que ça, c'est pas si clair que ça. On voit une grande lumière, c'est parfait, mais je n'en ai pas trouvé d'autres. Alors, on va déjà commencer par définir le mot « gloire » selon le dictionnaire. Quand on commence sur un sujet et qu'on ne sait pas comment partir, on commence par regarder le mot dans le dictionnaire. C'est ce que font à peu près tous les prédicateurs. C'est vrai. Comment t'es d'accord? Le dictionnaire est quelque chose d'extrêmement important pour le prédicateur, déjà pour qu'il essaie de comprendre sur quoi il va parler. Alors, qu'est-ce que c'est que la gloire selon le dictionnaire? C'est une renommée éclatante obtenue par de grandes actions, des qualités ou des mérites exceptionnels. Exemple, il a atteint la gloire grâce à ses découvertes scientifiques ou ses médailles d'or qu'il a remportées aux Jeux Olympiques, etc. Splendeur, magnificence d'une chose ou d'une personne. C'est un deuxième aspect. La gloire d'un coucher de soleil. Splendeur. L'honneur suprême accordé à une personne. Exemple, il a eu la gloire de recevoir ses distinctions. Donc, ces trois aspects sont intéressants parce qu'on va les retrouver. La renommée éclatante, la splendeur, l'honneur. La gloire peut se référer à la fois à la reconnaissance humaine, comme on vient le voir là, mais aussi à la splendeur et à la majesté divine. Alors, le dictionnaire a donné des aspects sur ces deux points. Franchement, c'était assez mauvais, donc je ne les donne pas. En ce qui nous concerne, nous allons nous focaliser, pour commencer, sur la gloire de Dieu, pour lesquelles le dictionnaire ne fournit pas vraiment grand-chose. Alors, nous connaissons la Bible, certains d'entre nous l'ont déjà lu plusieurs fois. On voit à travers toutes les histoires qui nous sont racontées dans la Bible les manifestations diverses et variées de la gloire de Dieu. On voit à travers cela. Mais on voit même que à travers toute cette Bible, c'est un élément important. On la voit apparaître à plein d'endroits. Alors, une fois qu'on est passé à l'époque, à l'épisode dictionnaire, on passe à l'épisode. Qu'est-ce que voulait dire le mot à l'époque des Écritures? D'abord, on commence par l'hébreu, puisque les premiers textes étaient en hébreu. Et en hébreu, le terme utilisé pour gloire est kabod. Kabod qui signifie poids, pesanteur ou lourdeur. Mais il ne faut pas le voir comme un poids et une lourdeur. On l'a chanté tout à l'heure. Tu es revêtu de. Il y avait des paroles qui disaient tu es revêtu d'habits de majesté. En fait, quand vous voyez dans le passé la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre maintenant, au moment de l'intronisation, ils sont revêtus de vêtements assez lourds avec des breloques de partout. Et donc, c'est l'idée que. C'est l'idée d'un vêtement lourd, mais qui est majestueux, que revêt la personne. Voilà l'idée qu'il y a derrière. En grec, on utilise le terme doxa pour décrire la splendeur de Dieu, qui est plutôt associée à sa réputation ou à sa renommée, comme on l'a vu tout à l'heure dans la définition du dictionnaire. La gloire de Dieu, elle se manifeste de deux façons. D'abord, de façon intrinsèque, c'est-à-dire ce qu'est Dieu en tant que personne. Qu'est-ce que Dieu, enfin personne, en tant qu'être divin, qu'est-ce que Dieu, ce qu'il est, sa perfection, comme on l'a chanté tout à l'heure, sa sainteté, comme on l'a saint, hein, voilà, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle les attributs, qui sont totalement indépendants de ses œuvres, ce qu'il est, c'est glorieux. Mais elle est aussi extrinsèque, c'est-à-dire, elle nous est révélée par ses actes majestueux. On pense à la création de l'homme qui est créé à l'image de Dieu, mais on pense aussi à sa providence et à ses actes rédempteurs comme le salut. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la définition de la gloire de Dieu. Je continuerai un tout petit peu après, mais là pour l'instant, je vais essayer de donner un petit résumé qui n'est pas de moi. C'est une personne qui s'appelle M. Christopher Morgan, lui qui a bien investigué dans la Bible la question de la gloire. Il a identifié 7 sens différents de la gloire de Dieu dans la Bible. Bon, d'abord, ça montre la richesse et la diversité de la notion de gloire de Dieu dans les Écritures. Mais je ne vais pas les reprendre parce que ça va rallonger et je pense que ce n'est pas nécessaire. Par contre, si vous voulez avoir ce document, je peux vous envoyer le lien. Donc, pour conclure sur la gloire de Dieu, je vais m'inspirer de ce qu'a dit Christopher Morgan sur le sujet. Donc la gloire de Dieu comprend l'ensemble de ses innombrables perfections, bon, sa toute-puissance, sa sainteté, comme on l'a chanté tout à l'heure, dans ce qu'elles ont de beau, de grandiose et d'exceptionnel. Dieu nous révèle sa gloire au moyen de sa création et de l'homme qu'il a conçu à son image. Il la manifeste également par sa providence, c'est-à-dire son action dans nos vies, et par ses actes rédempteurs, comme le salut en Jésus-Christ, et son peuple lui répond, comme on l'a fait tout à l'heure, en le glorifiant. Ok, bon, voilà une définition de la gloire de Dieu qui va nous aider à comprendre comment on participe et comment on a accès et participe à cette gloire. Maintenant, on va passer justement à l'accès à la gloire de Dieu. Nous venons de voir que Dieu manifeste sa gloire également par sa providence et par ses actes rédempteurs. Ce fut particulièrement le cas pendant la sortie d'Égypte des Hébreux, que nous raconte le livre de l'Exode, tout d'abord avec les 10 plaies d'Égypte, puis lorsque Dieu apparaissait pour guider les Israélites dans le désert, dans la colonne de nuée le jour et dans la colonne de feu la nuit, ensuite, lorsque Moïse reçut l'étape de la loi du Sinaï, on nous dit, la Bible nous dit que la peau de son visage, il était resté dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, il était resté dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il a vu Dieu, sa gloire? Ça m'étonnerait. Mais enfin, voilà, on ne sait pas trop. Mais le résultat est que la peau de son visage rayonnait de la gloire divine parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Ce rayonnement était une manifestation rayonnante, évidemment, visible de la gloire de Dieu. Moïse a-t-il eu accès à la gloire de Dieu pendant cet épisode? Lui seul le sait, hein. Moi je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas la réponse en tous les cas. Mais ce qui est sûr, c'est que les Israélites craignirent de mourir s'ils s'approchaient trop près de l'éclat de son visage. Ils avaient peur de mourir. Ils avaient reconnu que là, il y avait quelque chose d'extraordinaire et que s'ils s'approchaient, qu'il y avait un lien avec Dieu, avec la gloire de Dieu, et s'ils s'approchaient, ils pouvaient mourir. Du coup, Moïse a mis un voile sur son visage jusqu'à la disparition totale de ce rayonnement surnaturel. Et si j'ai choisi, je parle de ça, c'est parce que le texte qui m'était imposé, c'est celui-ci, 2 Corinthiens 3, 7 à 12, et qui fait référence à cet épisode. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, c'est-à-dire la loi, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à plus forte raison, le ministère de la justice est-il encore plus glorieux? Et sous ce rapport, ce qui autrefois a été glorieux ne l'est plus, à cause de cette gloire bien plus excellente. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. C'est donc avec une telle espérance que nous parlons avec une pleine assurance. Je ne vais pas faire une étude textuelle de ce passage parce que, déjà pour moi, il est énigmatique. Bon, je l'ai quand même étudié, mais je vais essayer d'en tirer l'essentiel, enfin ce que je pense être l'essentiel. Non, d'abord, ce que Paul appelle le ministère de l'Esprit, c'est la seconde, aussi appelée nouvelle alliance, fondée sur la repentance et la foi en Christ. La première, ou l'ancienne alliance, n'avait pas pour vocation de perdurer, mais de préfigurer cette nouvelle alliance. Et il appelle, il dit le ministère de la mort. Il y a le ministère de l'esprit et le ministère de la mort. Le ministère de la mort, c'est justement cette loi qui nous accable, parce qu'elle révèle notre péché. Elle nous dit, voilà, vous êtes des pécheurs. C'est accablant. Et il fallait des sacrifices, vous connaissez l'histoire, il fallait, pour se faire pardonner les péchés, il fallait accomplir de multiples sacrifices. Mais ce n'est plus le cas avec la nouvelle alliance. Elle perdure. Mais, en réalité, j'en veux à Paul, parce qu'il aurait pu quand même être un peu plus précis. Comme la gloire de Dieu n'a jamais été observée par aucun humain, il n'est pas simple d'en fournir une description précise avec les mots à notre disposition. Et c'est vrai en science. On ne peut rien décrire, on ne peut pas définir une théorie si on n'a pas observé auparavant. Donc on n'est pas trop en capacité de définir précisément la gloire de Dieu. Mais je trouve que Paul utilise, un petit stratagème, mais il utilise des comparaisons. Il compare, il dit, là il nous dit, bon, vous aviez la gloire d'autrefois, elle était déjà glorieuse, hein, parce que vous avez vu le visage de Moïse, etc. Mais la gloire à venir, oh, c'est au-dessus. Il est malin, Paul. Il dira, il utiliserait une autre comparaison, 8:28, en Romains 8:28, que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Encore une autre comparaison. Par ces comparaisons, Paul montre que la splendeur de cette gloire éternelle qui va être révélée à la fin des temps est incomparable, grandiose, magnifique, majestueuse. Mais j'ai plus de mots, je ne sais pas si vous en avez d'autres. Voilà, on n'arrive pas à décrire tant c'est grand. Alors maintenant, je vais vraiment répondre à la question de l'accès à la gloire de Dieu. Donc j'utilise le texte de Romains 5, versets 1 à 2. « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » C'est donc sur la base de la repentance et de la foi que les croyants ont l'espérance d'accéder ou de prendre part à la gloire de Dieu. Ce qui implique, j'essaie de trouver les mots, j'ai du mal, l'honneur, l'immortalité, bien sûr, et la vie éternelle, bien entendu. L'accès à la gloire fait donc partie du package du croyant. Ça fait partie, je ne veux pas dire de notre héritage. La gloire de Dieu fait partie de l'héritage de ceux qui croient en Jésus, qui croient en la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Finalement, l'accès à la gloire de Dieu, il est garanti par Jésus-Christ, par son sacrifice. C'était facile, hein ? Je n'étais pas obligé de passer autant de temps pour dire tout ça. Mais voilà, autant le dire, c'est mieux en le disant, comme on dit. Hein ? Alors, voilà, je vais ouvrir une petite parenthèse, parce que moi je suis toujours soucieux, je ne connais pas tout le monde ici, mais je pense que la grande majorité d'entre vous sont des croyants, mais dans l'hypothèse où il y aurait des gens qui ne connaissent pas Jésus, la foi chrétienne, et qui n'auront pas accès à la gloire de Dieu. Hein. C'est pour ceux qui ne connaissent, l'accès à la gloire de Dieu est réservé aux croyants. Alors, je veux vraiment les inviter à prendre part à l'accès à la gloire de Dieu. Alors, comment faire ? D'abord, nous le savons, le mal est inscrit en nous, parce que nous savons au fond de notre cœur, et nous savons que nous agissons pas très très bien, ou nous agissons mal. Le mal est en nous et il nous souille. Le mal, qu'on appelle aussi le péché, nous sépare de Dieu et de sa gloire. Les Hébreux avaient parfaitement compris que qu'ils étaient pécheurs, s'approcher du visage rayonnant de Moïse pouvait entraîner la mort. Comment pourrions-nous survivre devant ce Dieu si parfait, si glorieux, sans être purifiés ? Évidemment, nous ne pourrions pas. Deuxième étape, pour accéder à la gloire de Dieu, on peut y accéder en croyant que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés. C'est-à-dire croire qu'il a subi à notre place la colère de Dieu qui nous était destinée. Alors, nous recevons le pardon de Dieu Il s'ensuit un changement de vie qui s'opère en nous. Par la grâce de Dieu, nous sommes alors justifiés, purifiés et réconciliés avec Dieu, recevant ainsi le don de la vie éternelle et le Saint-Esprit pour nous guider. Alors, voilà, la parenthèse est presque fermée. Si vous voulez approfondir un peu plus, il y a un verset emblématique dans la Bible qui est sur le fronton de notre église à Brignoux, c'est Jean 3,16, qui est parfois peut-être le code. C'est pas le code du Jean 3,16 Alors, c'est pas la seule église qui a fait ça, hein, je peux vous le dire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il appartient à chacun d'accepter ou de rejeter ce salut, mais seuls ceux qui l'acceptent auront accès à la gloire de Dieu. Alors cette fois-ci, je ferme la parenthèse. On va conclure sur ce point qui finalement n'est pas si compliqué. J'aurais quand même pas dû passer autant de temps, mais quand même, il fallait en parler. L'accès, l'espérance de l'accès à la gloire de Dieu. Alors d'abord, la splendeur de cette gloire à venir est grandiose, magnifique, incomparable. Et en réalité, nous n'avons pas vraiment les mots pour la décrire. Lorsque, moi je me souviens que quand je présidais la louange, que je chantais ce chant « Dieu est grand » qui est un chant magnifique, je ne sais pas si vous... Dieu est grand, mais grand, c'est petit comme mot, hein? Non, c'est déjà bien, mais c'est loin de représenter ce que Dieu est. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas vraiment les mots pour décrire toute cette gloire. L'accès à la gloire de Dieu, on vient de le voir, fait tout simplement partie du package, de l'héritage de ceux qui acceptent de se repentir de leurs péchés et de croire que Jésus est le Fils de Dieu, venu sur la terre pour pardonner et sauver. Nous aurons accès à la gloire de Dieu. On va voir si on va la voir, si on l'a déjà ou si on va la voir. On va voir. Bon, l'accès, c'est bien, mais maintenant, sujet plus délicat, la participation à cette gloire, bah, c'est pas mal non plus, on va voir ça. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, il me semble, mais ça c'est mon analyse, je peux me tromper, que lorsque nous louons Dieu, lorsque nous glorifions Dieu, nous participons déjà à cette gloire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse cette idée à votre analyse. Et la question qui se pose, c'est en dehors de la louange, peut-on en tant que croyant participer à la gloire de Dieu aujourd'hui, ici-bas? Bon, aussi étrange qu'il paraisse, 2 Corinthiens 3, verset 18, nous donne une première réponse. Enfin, il nous donne déjà même une réponse. Nous tous, qui le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Par qui? Par l'Esprit du Seigneur. Cette transformation en l'image du Seigneur est bien entendu l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous façonne à l'image du Christ. Évidemment, notre coopération avec lui est nécessaire. Bon, alors, vous connaissez, hein, l'état Bible prie chaque jour. Hein. Comment on coopère avec le Saint-Esprit? Eh bien, par la méditation de la Bible, évidemment, la prière, mais aussi la communion fraternelle. Et je vous renvoie au texte Actes 2,42. Mais voilà, nous devons, d'une certaine façon, le Saint-Esprit nous est donné, mais nous avons notre part qui est de coopérer. D'accord? Mais le Saint-Esprit nous guide tout en respectant notre rythme, nos capacités à recevoir ces enseignements. Notre croissance spirituelle, qu'on appelle sanctification, apparaît souvent lente, enfin chez moi, voire trop lente à nos yeux, surtout aux yeux des autres, hein, mais malgré tout, elle résulte d'un processus progressif de gloire en gloire. Ça demande du temps, de l'expérience, des échecs, des épreuves. On aimerait bien se passer de tout ça, hein, mais ça demande cela. Les épreuves qui nous aident à persévérer, finalement. Évidemment, les péchés et les tentations sont autant de freins, mais je crois que Dieu est patient avec nous, est miséricordieux. Il prend le temps nécessaire pour nous transformer. Par conséquent, j'ai envie de dire, oui, nous participons déjà à la gloire de Dieu en reflétant Jésus-Christ, même modestement. C'est l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous. Ne le méprisons pas. Et à l'échelle de l'histoire de l'Église, alors, il y a un nombre infini d'exemples extraordinaires de chrétiens qui ont marqué leur temps. Bon, moi, je pensais à Jonathan Edwards, Corrie ten Boom, Billy Graham, Mère Teresa, mais il y en a des milliers, je ne veux pas... Il y en a tellement qui ont marqué l'histoire de l'Église. Et bien, pas seulement l'histoire de l'Église, qui ont marqué le monde dans lequel ils ont vécu, parce qu'ils y ont contribué au bien-être de ce monde. Ils ont contribué, à travers leurs actions, à montrer l'œuvre de Christ, la compassion, leur service, leur humanité. Ils ont montré comment la foi chrétienne peut inspirer des œuvres extraordinaires. Et en cela, ils ont glorifié Dieu. Nous pouvons participer à la gloire de Dieu, déjà ici-bas. Mais nous venons de voir que la transformation à l'image de Christ est continue et progressive. Selon 1 Jean 3,2, nous connaissons la fin de cette transformation. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Waouh ! Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce verset nous dit que finalement, les croyants jouiront de la présence pleine et directe de Dieu lors de la seconde venue du Christ, mais plus encore, ils seront transformés à l'image de Christ. Tout notre cheminement terrestre, le Saint-Esprit nous transforme progressivement, de gloire en gloire, petit pas par petit pas, chez moi, très petit pas par très petit pas, mais au bout du compte, nous serons semblables à Christ. Incroyable, incroyable, mais vrai. Les théologiens appellent ce processus la glorification. Donc c'est ce qu'on appelle la glorification en théologie. Bon, c'est pas très important, mais voilà, les mots, parfois, c'est bien les savoir, c'est bien savoir ce que ça veut dire. C'est la glorification. Les églises orthodoxes utilisent un autre terme, peut-être à mes yeux plus explicite, mais quand même, un peu, je dirais, pas arrogant, mais voilà. Ils appellent ça la déification. La déification. Glorification, et chez les orthodoxes, la déification. Alors, ce terme se réfère à l'état final des croyants lorsqu'ils partageront la gloire éternelle de Christ. Cela marquera ce qu'on appelle l'achèvement du salut. Et le salut, encore, excusez-moi, j'aime pas trop parler de théologie, mais là, en salut, c'est important, ce n'est pas que le fait d'être sauvé. Le salut, ça commence par, évidemment, la nouvelle naissance, et ça se finit à la gloire de Dieu. Ça commence par la nouvelle naissance, ça passe par la sanctification dont je viens de parler, et aussi la glorification. Eh bien, à ce moment-là, ce qu'on appelle le salut et la sanctification, eh bien, ce cheminement sera terminé pour nous. Nous serons dans l'état parfait, de perfection. Nous ressusciterons avec des corps glorifiés, exempts de péché et de corruption. Voilà. Maintenant, je vous propose de lire 3 passages de l'Apocalypse. On en a déjà lu tout à l'heure. C'est le seul livre qui nous parle de la fin des temps. Oh, bon, c'est pas vrai, il y en a dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, c'est le seul livre qui nous parle de la fin des temps. C'est-à-dire lorsque le royaume de Dieu sera pleinement manifesté au retour du Christ. Et voilà ce qu'on lit. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et les femmes. » Pardon, la traduction à l'époque, ça voulait dire les hommes, ça représentait les hommes et les femmes, mais une sœur m'a dit hier, non, là, c'est pas bien, il faut dire les hommes et les femmes. Bon, je change un peu le texte. Donc, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et les femmes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Waouh ! La ville la Nouvelle Jérusalem, n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lumière, ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et c'est ça le troisième aspect que je voulais présenter. Bien sûr, ces versets décrivent la vision finale de la Nouvelle Jérusalem où Dieu habite directement avec son peuple. La présence de Dieu remplace le besoin de tout temple ou toute source de lumière, car sa gloire éclaire la ville. Les croyants y régneront avec lui pour toujours, vivant dans la lumière et la gloire éternelle de Dieu. La participation finale à la gloire de Dieu est de se trouver glorifié, bien sûr, dans la présence de Dieu et de sa gloire, et de régner avec lui pour toujours. Et ça me fait penser au témoignage de David tout à l'heure, où il s'est rendu compte que son patron était chrétien, mais que dans cette entreprise, il agissait, il y avait des choses différentes. Il faisait attention aux employés, à ceux qui produisaient. D'une certaine façon, il s'était fait un peu le serviteur de ses employés, bien que, bien entendu, une entreprise doit être profitable. Mais voilà, on voit déjà un signe. Eh bien, avec Dieu, il a inversé. Dieu est allé plus loin que l'employeur de David. Il a plus des employés, puisque tout le monde va régner avec lui. Il n'y aura plus d'employés. On va tous régner avec lui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ne me posez pas trop de questions sur le sujet. Je ne suis pas allé voir et je ne peux pas vous le dire. Mais voilà ce que nous dit la parole. Nous régnerons avec lui. Formidable. On n'est plus dans le rapport de force employeur-employé qu'on peut trouver dans nos entreprises. Bon, ce qui se comprend aussi, mais nous régnerons avec lui. Cette gloire que nous avions du mal à décrire, finalement, avec des mots, tant elle est merveilleuse, les croyants, à la fin des temps, la contempleront dans toute sa perfection et ils y participeront. Donc pour conclure ce dernier point, on a vu que la participation à la gloire de Dieu recouvre au moins trois aspects. Si j'ignore le fait que nous louons Dieu, je ne considère pas cela. Trois aspects, la sanctification, la glorification et le règne partagé. Sanctification sur cette terre, avec l'aide du Saint-Esprit, les croyants participent à la gloire de Dieu en reflétant Christ à leur modeste niveau. Mais il ne faut pas mépriser ce modeste niveau, je vous assure, par leurs œuvres et leurs témoignages, fruits de leur croissance spirituelle, qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Glorification, c'est un peu plus futuriste. Au retour de Christ, les croyants seront glorifiés, semblables à lui. Waouh ! Et enfin, dans l'éternité, nous régnerons avec Christ. Nous serons glorifiés et nous régnerons avec lui pour la fin des temps. Et c'est pour ça que j'ai choisi comme slogan de ce texte incroyable. Parce que même, c'est difficile de croire ça, non ? Vous avez du mal ou ça se passe bien ? C'est comme incroyable, incroyable que nous allons vivre ces choses-là. Alors pour conclure, nous avons vu ensemble quelque chose d'incroyable mais vrai. Les croyants ont non seulement accès à la gloire de Dieu, mais ils y participeront. Nous avions commencé par définir la gloire de Dieu ainsi et avec les deux points suivants, je l'ai un peu complété. La gloire de Dieu comprend l'ensemble de ses innombrables perfections dans ce qu'elles ont de beau, de grandiose et d'exceptionnel. Donc c'est ce que j'avais déjà dit tout à l'heure. Dieu nous révèle sa gloire au moyen de sa création et de l'homme qu'il a conçu à son image. Jésus-Christ en est l'image parfaite. Jésus-Christ. Nous quand on dit finalement Dieu révèle sa gloire au moyen de sa création et de l'homme, on a envie de dire, oui, l'homme, ce n'est plutôt des caricatures que des images. Mais l'image parfaite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il la manifeste également par sa providence et par ses actes rédempteurs. N'est-ce pas ? On la voit dans nos vies. C'est là où il manifeste sa gloire, dans nos vies. Et, bien entendu, à travers le salut en Christ. Son peuple lui répond en le glorifiant. Donc, on s'était arrêté là, tout à l'heure. Et on peut compléter maintenant. Dieu reçoit cette gloire et partage la sienne avec son peuple par l'union à Christ. Alors l'union à Christ, c'est un terme qu'on emploie très souvent, mais qui est très simple, qu'on ne comprend pas toujours, c'est tout simple pourtant. Je ne sais pas si vous connaissez les épîtres de Paul, mais Paul dit tout, je ne sais pas combien de fois il l'a dit, plus de 100 fois, je crois, en Christ ou en lui. Je ne sais pas si vous lisez les épîtres de Paul dans la version 21 ou second, vous allez trouver du en Christ, en Christ, en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un terme très court pour dire tout simplement que ceux qui sont croyants, qui sont passés par la repentance et la foi. Voilà, en Christ. C'est tout ça. C'est plus que ce que je viens de dire, mais en tous les cas, c'est ça. En Christ, c'est les croyants, la gloire de Dieu sera partagée avec son peuple, on pourrait dire avec le peuple des croyants. On peut rajouter ensuite, toutes ces actions contribuent à sa gloire, car de cette façon, Dieu, dans ses multiples perfections, est contemplé et connu de tous. Ce qu'on avait déjà vu, on en avait eu un aperçu dans ce que j'avais décrit sur ce qui s'est passé avec Moïse lorsqu'il a rencontré Dieu. Mais c'est plus grandiose que ça. Et puis enfin, j'ai rajouté un truc, une phrase, parce que finalement, on se rend compte que Dieu est le véritable trésor et la véritable source de joie. On vient de parler de l'accès à la gloire de Dieu. Je ne sais pas si je vais reprendre, parce que je viens déjà d'en parler. Donc je vais aller assez brièvement, je vais passer à la suivante. Donc vous savez, la participation, sanctification, glorification, règne. On a vu que l'accès fait partie du package de l'héritage du croyant. Et maintenant, j'ai envie de vous laisser la parole. Sur ce qu'on vient de dire sur l'espérance, de point de vue applicatif, qu'est-ce que ça vous procure ? Est-ce que ça vous apporte quelque chose ou bon, qu'est-ce que ça vous incite à faire ? Quelles sont les applications que vous pourriez pratiquer dans vos vies à partir de ce qu'on vient de voir sur l'espérance ? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées ? Et comme chez vous, il y a une estrade, vous ne pouvez pas vous planquer derrière. Chez nous, il n'y a pas d'estrade, donc on peut se planquer derrière. Personne ne peut. Là, il n'y en a pas. Dites-le librement, hein, qu'est-ce que ça vous inspire pour votre vie de tous les jours ? La joie. Persévérance, oui. Je ne suis pas magicien. Hein. Je vous donne la troisième, ou je vous laisse encore deux secondes. Attention. Hein ? Est-ce que ça vous réconforte ou pas ? Est-ce que c'est réconfortant ou est-ce que c'est... La quatrième est un peu plus compliquée, mais c'est l'idée que nous allons ressembler à Christ et être semblables à lui. C'est cette idée qui est là derrière. Est-ce que ça vous motive ? Peut-être que non. Hein. Est-ce que savoir qu'on va être semblable à la Christ, ça vous motive à coopérer avec l'Esprit pour transformer vos comportements, nos comportements ? Et après, le dernier. Je vous donne un petit indice. Matthieu 28, 18-20. Ne vous motive-t-elle pas à partager l'Évangile, à témoigner de l'amour de Dieu dans le monde qui en a tant besoin ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces applications ? Vous en avez peut-être d'autres. Hein. Moi, personnellement, c'est ce que ça m'inspire. D'abord, la joie. C'est tellement grandiose qu'on a même la peine à y croire tout en étant croyant, pourtant. On se dit, mais c'est pas possible, on va vivre des choses aussi extraordinaires. Persévérer dans la foi, persévérance, évidemment. Et même rechercher l'unité. On est tellement divisé dans le monde chrétien, c'est quand même incroyable. Quand on sera dans l'éternité, dans la gloire de Dieu, alors vous allez me dire, on sera semblable à Christ. Bon, il n'y aura plus de problème. Mais voilà, c'est quand même... Déjà, si l'Église pouvait rester unie, déjà les églises évangéliques, déjà pour commencer, avant de s'unir avec les autres. Et c'est un profond réconfort dans l'épreuve, pour ceux qui traversent des difficultés. Difficulté profonde. Et puis cette perspective, cette perspective, vous savez, la première série, c'était qu'est-ce que implique la part, qu'est-ce que procure l'espérance. Et je vous expliquais qu'il y avait une règle extraordinaire, enfin extraordinaire, la plus importante plutôt, c'est de garder une perspective éternelle. Et entre-temps, je vous avais donné une illustration sur celui, si on regarde pas devant soi, si on regarde que devant soi, on risque de louper les obstacles. Ben, le lundi, je prêchais ici le dimanche, le lundi, je suis allé faire du ski de fond, et je regardais uniquement à 5 mètres devant moi, j'ai pris un chemin, je ne me suis pas rendu compte que sur ce chemin, il y avait une bande de neige de 1 mètre, 1,50 m qui avait disparu. Donc, et avant cette bande de neige, une plaque de glace, et si vous avez fait du ski de fond, quand vous traînez sur une plaque de glace et que vous essayez de vous arrêter, il y a peu de chance. Du coup, je suis tombé par terre, évidemment. Voilà, j'ai pensé à ce que je vous avais dit, la perspective éternelle. Il faut regarder loin, pas regarder, parce que si j'avais regardé plus loin, j'aurais vu qu'il manquait un mètre de neige. J'aurais vu qu'il y avait une plaque de glace et je ne m'y serais pas aventuré. Donc l'importance de regarder loin. Et tout ça, ça nous encourage. Donc voilà ce que je pense que je peux dire sur ces quatre prédications. Elles se complètent. On s'est retrouvés hier tous les trois. On a eu une occasion de se retrouver. On s'est rendu compte qu'on avait tous les trois approché totalement différemment le sujet. Mais en fait, on sera très complémentaires. Il est très possible qu'il y ait des redites aussi entre ce que je dis, ce que Michael dit ou ce que Damien dit. En Christ, nous avons accès à la gloire de Dieu, mais nous allons aussi y participer. Assurés de notre futur glorieux dans sa présence, nous reflétons déjà ici-bas, même modestement, la gloire de Dieu dans nos vies. Je vous fais un petit résumé. Nous contemplerons et partagerons pour l'éternité sa gloire que nous avons peiné, bien peiné à décrire aujourd'hui. Amen. Notre Dieu, tu es le roi de gloire. Nul n'est comparable à toi. Sois loué pour ta grandeur, ta toute-puissance, alors ton omniscience, ton infinie sagesse, ta sainteté, ta justice parfaite. Bref, on n'a pas les mots. Tu es majestueux. Merci pour ton si grand salut en Jésus-Christ qui nous donne l'accès à la gloire de Dieu. Merci pour ta présence en nous par le Saint-Esprit qui nous guide sur le chemin de la sanctification. Merci parce que notre destinée d'enfant de Dieu est glorieuse, car nous serons semblables à Jésus-Christ, notre Seigneur. Et aussi incroyable qu'il y paraisse, merci parce que nous verrons ta gloire et régnerons avec toi. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.